Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François ne cesse de recommander la voie du dialogue et de la négociation dans le respect de la justice pour mettre fin à la guerre en Syrie. Il l'a redit ce mercredi à l'audience générale. Le pape François qui a par ailleurs comparé l'Église à une mère de famille qui comprend, encourage et s'efforce d'aider ses enfants qui ont commis des erreurs, y compris ceux qui sont tombés dans un gouffre profond. Dans ce magazine, nous parlerons également de la crise qui se déroule dans le sud des Philippines et de l'intérêt croissant de l'Église catholique pour l'univers numérique et les réseaux sociaux. La une de cette émission, donc, un nouvel appel du pape François en faveur de la paix dans le monde et en particulier en Syrie. Un appel lancé à quelques jours de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre à l'initiative des Nations Unies. Devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour l'audience générale hebdomadaire, il a demandé aux catholiques de prier pour que soient trouvées des solutions diplomatiques et politiques au foyer de guerre qui suscite l'inquiétude. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Le pape François a recommandé à nouveau la voie du dialogue pour mettre fin à la guerre en Syrie. Il a évoqué la population syrienne bien-aimée dont la tragédie ne peut être résolue que par la négociation dans le respect de la justice et de la dignité de toute personne et particulièrement des plus faibles et sans défense.
Il mio pensiero va specialmente alla cara popolazione siriana.
Il a également appelé les catholiques du monde entier à s'unir à la journée programmée le 21 septembre par les Nations Unies et relayée par le Conseil œcuménique des Églises. Engageons-nous tous à encourager les efforts pour une solution diplomatique et politique dans les foyers de guerre qui nous préoccupent encore, a exhorté le pape François.
Possa la pace, dono di Gesù.
Que la paix, don de Jésus, a-t-il ajouté, puisse toujours habiter en nos cœurs et soutenir les objectifs et les actions des responsables des nations et de tous les hommes de bonne volonté. Depuis le début de son pontificat, tout comme l'avait fait son prédécesseur Benoît XVI, le pape François n'a cessé d'appeler à la fin des violences au Proche-Orient et plus particulièrement en Syrie. Il avait notamment invité le 7 septembre dernier les fidèles du monde entier à observer une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie et dans le monde.
Effectivement, depuis l'attaque chimique du 21 août, répondant aux appels pressants des patriarches d'Orient, le Saint-Siège a mis tout son poids dans la balance pour éviter une intervention étrangère armée en Syrie, tout en condamnant sans détour le recours aux armes chimiques. Au début du mois, la secrétaire d'État avait tenu à informer le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège sur l'action du pape et l'engagement du Vatican. Le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti, avait insisté sur la nécessité de faire cesser la violence et de préparer la Syrie de demain, préserver dans son unité et dans le respect des minorités. Les évêques latins des régions arabes actuellement réunis à Rome ont participé à l'audience générale ce mercredi. Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Toile, a rencontré le pape François à deux reprises depuis le début de la semaine, lors de la messe quotidienne à la maison Sainte-Marthe au Vatican, une deuxième fois au terme de l'audience générale ce mercredi matin. Il s'est dit heureux de la proximité du pape François, heureux de voir que les évêques de la région touchés par le conflit syrien ne sont pas seuls sur le terrain. On l'écoute.
Nous n'aimons pas être seuls dans cette situation un peu délicate, un peu difficile. Nous étions heureux d'entendre le Saint-Père nommer les pays par pays. Terre Sainte, Jordanie, Syrie, Égypte, Irak. Ça nous console. Puis quand les gens, les chrétiens du Moyen-Orient, sentent que le Saint-Père lui-même s'intéresse à leur sort, à leur vie, à leurs difficultés, à leurs problèmes, ça nous encourage, ça nous donne de la foi pour aller de l'avant. La situation en Syrie continue grave, mais nous ne devons pas nous désarmer ni avoir peur. Continuons dans la prière, dans la confiance et espérons bien que ça passera.
Le pape a une nouvelle fois appelé au dialogue et à la négociation pour la Syrie. Est-ce que le pape vous a dit, à vous, évêque du Moyen-Orient, quelque chose de particulier?
La vérité, en parlant avec lui, je lui dis merci de ne pas nous laisser seuls sur le terrain. Et il m'a dit, adelante, allez de l'avant, courage, la main dans la main, espérons bien. Tous appellent au dialogue, mais quand cette voix vient du pape, elle a un autre poids, une autre signification, ça va de soi.
Le risque d'une intervention militaire en Syrie semble s'être éloigné. Est-ce que vous êtes rassuré?
Nous sommes un peu plus rassurés, nous nous sentons un peu plus sûrs. ou disons, il y a moins un risque de la guerre d'intervention étrangère. La guerre civile intérieure continue, l'Occident et la communauté internationale continuent à aider les rebelles, soit les rebelles syriens, soit les mercenaires qui sont arrivés de tout le monde, ils sont bien payés pour faire la guerre là. Ce deuxième groupe ne connaît pas les pays, il s'en fiche pas mal, les morts. Déjà le pays est détruit, déjà les millions de réfugiés sont dehors, les victimes sont par centaines de milliers. C'est un peu grave, je voudrais que le monde ait un peu plus de conscience, qu'il pense aux 100 000 morts, ces victimes. Dans chaque guerre, il manque toujours un aspect humain. On pense rarement aux familles, aux femmes, aux âgés, aux enfants, aux petits, là. Et tout ça sont les premiers à payer le prix.
Les défis des chrétiens de la région, est-ce qu'aujourd'hui tout est conditionné par le conflit syrien ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux?
Parmi les défis, premièrement, il faut mentionner l'immigration des chrétiens, il faut mentionner les peu d'accès aux chrétiens, aux mass médias du gouvernement, il faut mentionner dans la Constitution, quelquefois dans la Constitution on dit tous sont égaux, mais dans la vie pratique tous ne sont pas égaux. Nous avons mentionné les mariages mixtes chrétiens et musulmans, et se marier avec une femme chrétienne c'est faisable, une autre musulmane c'est pas faisable. Nous avons pas mal de défis, c'est pas facile, c'est notre croix de chaque jour, c'est notre croix de diocèse et comme personne, comme famille. De là, ces nombres sont toujours réduits. Mais ça nous console de voir que tous, même les dirigeants musulmans, au moins chez nous en Jordanie, et même les Israéliens, je pense, mais le gouvernement, disent que la présence des chrétiens dans les pays est indispensable. Et si nous parlons des lieux saints, des terres saintes, sans peuple, sans communauté, sans âme, ça ne veut rien dire là. Espérons que cette terre sainte soit sainte, mais avec terre sainte, j'entends parler et de la terre, et des personnes, et des gens, et de la communauté.
Donc il y a la Syrie, mais il y a aussi l'Égypte, l'Irak. Le constat est sombre. Comment vous y faites face?
Tous voient. Quelques-uns n'aiment pas voir, mais tous voient, tous entendent cette montée du fanatisme musulman. L'Occident ou la communauté internationale paraît ne rien dire. Puis cette demande qui se répète maintenant dans la bouche de tout le monde, tant d'enthousiasme, de zèle, pour mettre la démocratie en Irak, en Syrie. Puis on se demande, mais pourquoi on n'a pas les mêmes intérêts pour résoudre le conflit israélo-palestinien qui date depuis 66 ans. C'est une demande qui est à la bouche des petits et des grands. Pour voir cette politique de deux mesures, ça ne vaut plus, ça ne vaut plus. Et nous n'avons plus, où les gens, les peuples, les familles n'ont plus confiance dans ces discours des grands qui remplissent la bouche avec des beaux discours. Démocratie, démocratie, puis de fait sur le terrain. Nous sommes très loin de la démocratie, ils sont en train d'aider. Espérons que la série finisse bien, parce que si ça continue comme ça, je me demande qui vient après, et en faveur de qui, celui qui vient après.
Et vous, vous vous substituez à ces discours des grands?
Nous sommes en train de prier, en train de plaider la cause, en train de plaider de défendre la paix, la justice, en train de dire la vérité. Et il faut dire que la vérité ne plaît pas à tout le monde là. Quelques-uns n'aiment pas cette vérité.
Le patriarche latin de Jérusalem, interrogé par Antonino Gallofaro. En Syrie, la minorité chrétienne prise entre deux feux a besoin de la solidarité internationale. Des ONG ont lancé des initiatives pour faire entendre sa voix au sein des institutions internationales. Mais que pensent les évêques des États-Unis? Élément de réponse avec Xavier Sartre.
L'épiscopat catholique s'était montré plutôt discret il y a 10 ans lors de l'intervention américaine en Irak, alors que Jean-Paul II ne cessait d'élever sa voix pour conjurer une telle guerre. Cette fois-ci, il s'est rangé sans ambiguïté contre une intervention armée en Syrie. Le vaticaniste américain John Allen, du National Catholic Reporter, note ainsi que le 5 septembre, les évêques américains ont adressé aux membres du Congrès américain une lettre dans laquelle ils affirment clairement qu'une attaque militaire en Syrie serait contre-productive, qu'elle aurait des conséquences malheureuses et ne ferait qu'aggraver une situation déjà dramatique. Lors de l'offensive contre Saddam Hussein, il s'était limité à réclamer que soient respectés les critères d'une guerre juste et légitime. Des intellectuels catholiques américains très influents avaient même fait le déplacement jusqu'à Rome pour tenter de convaincre le Vatican du bien fondé d'une telle guerre. À l'époque, l'opinion publique américaine était encore sous le choc des attentats du 11 septembre. L'Église catholique catholique, de son côté, venait d'être secoué par l'explosion des scandales de pédophilie et sa cote de popularité était au plus bas. Aujourd'hui, le contexte est différent. De plus, les évêques américains qui ont engagé un bras de fer avec l'administration Obama au sujet de plusieurs dossiers à caractère éthique n'ont pas peur de contrarier leurs dirigeants.
Mais la Syrie, hélas, ce n'est pas la seule source d'inquiétude dans le panorama international actuel. Aux Philippines, le port de Zamboanga au sud de l'archipel est depuis plusieurs jours le théâtre de violents affrontements entre l'armée et les rebelles du MNLF, un mouvement indépendantiste musulman qui continue de retenir des personnes en otage comme boucliers humains. Le 21 septembre, une grande manifestation et une veillée pour la paix auront lieu à Manille avec la participation du gouvernement, de l'Église catholique et de nombreuses organisations de la société civile. Lundi, les évêques de Mindanao ont demandé aux autorités de proclamer un cessez-le-feu immédiat à Zamboanga. Ils ont exhorté les forces gouvernementales et les rebelles à trouver une solution pacifique à ce conflit qui a déjà fait de nombreux morts et déplacés. Aujourd'hui, la majorité des rebelles du MNLF a signé un accord de paix avec le gouvernement et les discussions se poursuivent à propos des annexes de cet accord. Mais certaines factions contestent justement cet accord. Marie Duhamel a interrogé à ce propos François-Xavier Benet, géographe et chercheur à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain, basée à Manille.
En fait, on s'aperçoit que depuis le mois d'octobre 2012, date de la signature de l'accord cadre entre le MILF et le gouvernement, il y a une espèce de schéma qui s'est développé pendant toute l'année 2013. Par exemple, en février 2013, la première annexe a été négociée et signée à Kuala Lumpur. Et au même moment, le sultan de Sulu, Jamalul Kiram III, envahissait avec 300 hommes l'État de Sabah, qui actuellement appartient à la Malaisie, mais qui est revendiqué par les Philippines. Ça s'est terminé dans un bain de sang, mais c'était le premier essai, en fait, pour essayer de saboter l'accord de paix. Ensuite, au mois de juillet dernier, il y a eu la signature de la deuxième annexe sur le partage des ressources naturelles. Et là, il y a eu toute une série d'attentats sur l'île de Mindanao. Et ensuite, le 9 septembre, au moment où le gouvernement philippin et le MILF allaient négocier la troisième annexe, il y a eu donc ce coup d'éclat sur la péninsule de Zamboanga.
Aujourd'hui, en tout cas, on voit une volonté claire du gouvernement Aquino d'en finir. Donc il y a l'armée à terre, les frappes aériennes depuis lundi. Quel problème ça pose en fait pour le gouvernement? C'est une question de souveraineté, une question d'autorité qu'on remet en cause?
C'est une question d'autorité et de souveraineté. Et en même temps, le gouvernement philippin est extrêmement prudent dans ce domaine-là, puisque deux mois après l'accession au pouvoir de Benigno Aquino, il y a eu une prise d'otage au mois d'août 2010 d'un car qui comprenait des touristes de Hong Kong. L'affaire a été mal gérée et ça s'est terminé dans un bain de sang. Le gouvernement Aquino avait été violemment attaqué par les médias nationaux et internationaux sur la gestion de crise. Et donc l'objectif, c'est d'éviter à nouveau la même chose sur des civils pris en otage, cette fois-ci sur Zamboanga.
Aujourd'hui, la plupart des chefs religieux demandent justement à ce qu'on évite la violence. Mais certains analystes, eux, redoutent ou en tout cas évoquent une possible guerre civile à Mindanao, qui est, on le rappelle, un peu l'enclave musulmane dans un pays à majorité catholique.
C'est une hypothèse, mais on risque plus d'avoir une guerre entre groupes musulmans qu'une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Le MILF est prêt en fait à défendre jusqu'au bout son accord avec le gouvernement philippin.
François-Xavier Benet de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Beaucoup plus près de nous, le laïcisme stigmatise les croyants. En France, une fonctionnaire responsable de 72 agents d'entretien a été destituée et mutée pour non-respect de la laïcité. Sa faute, lors des fêtes de fin d'année, elle a offert à plusieurs collègues un calendrier avec le logo de son église protestante et un verset biblique. Selon le maire, elle aurait ainsi fait du prosélytisme religieux sur son lieu de travail. Fin juin, elle a été soudainement interdite de communiquer avec son équipe, avant d'apprendre, début septembre, qu'elle était finalement mutée. Selon un article paru dans La Croix, la décision du maire a été confirmée le 14 septembre par une commission administrative paritaire. Au retour à l'audience générale de ce mercredi, à laquelle une fois encore ont participé des dizaines de milliers de personnes de plusieurs pays. Un nouveau bain de foule plein de gaieté et de chaleur pour le pape François, qui toujours souriant est arrivé à bord de sa Jeep découverte pour faire le tour de la place, bénir les fidèles, embrasser les plus petits, alors que la foule l'acclamait en criant « François, tu es l'un d'entre nous ». Poursuivant sa catéchèse sur le mystère de l'Église, le souverain pontife a, cette semaine encore, comparé l'Église à une bonne mère de famille qui indique à ses enfants la route à suivre dans la vie et qui les remet entre les mains de Dieu avec patience, miséricorde et compréhension. Jean-Baptiste Cocagne.
Le pape François a comparé l'Église à une mère miséricordieuse qui ne ferme jamais ses portes, une mère qui défend ses enfants et leur pardonne avec tendresse, affection et amour. Car parfois ceux-ci s'écartent du droit chemin ou empruntent des routes qui conduisent à un abîme. L'Église n'a pas peur d'entrer dans leur nuit pour redonner l'espoir. Elle sait ce qui est bon pour eux, non pas grâce au livre, c'est son cœur qui le lui dit. Et avec le sens de la formule qui le caractérise, le pape a ajouté que l'université des mères, c'est le cœur. François a par ailleurs invité les fidèles à ne pas percevoir les 10 commandements comme une série de normes ou d'interdits, mais comme l'expression de la tendresse de Dieu et de celle de l'Église qui aide les chrétiens à devenir adultes et à assumer leurs responsabilités.
Io vorrei invitarvi a leggerli.
Je voudrais vous inviter à lire les 10 commandements, vous les avez peut-être un peu oubliés, et à les penser de manière positive. Ils nous parlent du comportement que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, des autres, de nous-mêmes. Ils nous invitent à ne pas avoir d'idoles matérielles qui nous rendent esclaves, à être honnêtes, à respecter les autres. Essayez de les voir comme les enseignements d'une mère qui veut le bien de ses enfants, a insisté le pontife argentin, en invitant toutes les mères à continuer de prier pour leurs enfants. Le Seigneur ne reste pas insensible, il sait toujours nous surprendre.
Et le pape François a une pensée pour les mères des détenus qui souffrent parce que leurs enfants sont en prison. Elles ne se demandent pas s'ils sont coupables ou pas, a-t-il dit. Elles continuent à les aimer et sont prêtes à subir des humiliations sans crainte. On sait que l'ancien archevêque de Buenos Aires s'est toujours efforcé d'être proche des prisonniers dans son action pastorale. Le jeudi saint, souvenez-vous, c'est dans une prison qu'il avait célébré la messe in cena Domini. Avant l'audience générale, le pape François avait reçu son nouvel aumônier, Mgr Konrad Krajewski, accompagné des membres de sa famille la veille au soir dans la basilique Saint-Pierre. Mgr Krajewski avait reçu l'ordination épiscopale des mains du cardinal Bertello, président du gouvernorat du Vatican, en présence du Saint-Père. Polonais, âgé de 49 ans, spécialiste de la liturgie, le nouvel aumônier de sa sainteté était depuis plusieurs années cérémoniaire pontificale. Il avait l'habitude de distribuer de la nourriture aux pauvres dans les rues de Rome et il a choisi la miséricorde comme devise épiscopale. Sa nouvelle charge, qui remonte au premier siècle du christianisme, consiste justement à s'occuper des pauvres au nom du pape. Il est toujours présent aux cérémonies, aux audiences pontificales, aux côtés du préfet de la maison pontificale. Mgr Krajewski succède à Mgr Guido Pozzo, qui a retrouvé sa charge de secrétaire de la commission Ecclesia Dei, en charge de la question des fidèles traditionalistes, un poste qu'il avait quitté il y a 9 mois. Ce jeudi, le pape François recevra en audience le premier ministre lituanien, accompagné de son épouse et des membres de sa suite. Après la pause estivale, le mois de septembre est marqué par de nombreuses visites officielles au Vatican. Le Saint-Père a déjà reçu le roi de Jordanie, le président bolivien Evo Morales et le premier ministre thaïlandais. Vendredi, il recevra un autre chef d'État latino-américain, le président du Honduras, puis le chef de l'État hongrois. À cet agenda diplomatique chargé s'ajoutent les célébrations de l'année de la foi et les importantes rencontres de travail avec les cardinaux et chef de dicaster dans le cadre des réformes en gestation. Dimanche, enfin, le pape François se rendra en Sardaigne pour son deuxième déplacement en Italie. Sachez enfin que le Conseil pontifical des communications sociales tiendra son assemblée plénière à Rome du 19 au 21 septembre. Les participants analyseront les liens entre la toile et l'Église. Mgr Paul Taïg, numéro 2 du dicaster, a indiqué que le but de cette session de travail était de faciliter une plus grande connectivité entre les différentes initiatives ecclésiales lancées dans le monde entier, révélatrices de la structure à la fois mondiale et locale de l'Église. Il existe en effet de nombreux projets innovants et dynamiques en mesure d'apporter l'Évangile dans le monde numérique. Le Conseil souhaite aider les auteurs de ces projets à partager leurs expériences. Actuellement, le portail du Vatican, www.news.va, qui rassemble la production de tous les médias du Vatican dans leurs différentes langues, enregistre 10 260 000 visites par mois par le biais de Facebook, tandis que le compte Twitter du pape François compte plus de 9 millions de followers. Un véritable succès médiatique dû en grande partie au style du pape argentin, selon le cardinal Celli, président du dicaster. Pour lui, le pape François soit arrive à se faire comprendre parce qu'il utilise un langage simple, parce qu'il parle au cœur des personnes, par sa gestualité, par ses formules figurées et parfois pittoresques. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mais je vous invite à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.